Cela faisait bien longtemps que le mondial de l'automobile n'avait pas suscité un tel enthousiasme. Le salon, qui est ouvert hier au public, annonce les révolutions à venir dans un secteur qui sort tout juste d'une longue période de marasme économique et s'est fortement restructuré. Il y aura, c'est promis, plus de changements dans les 5 années à venir que dans les 5 décennies écoulées. La voiture qu'on disait trop polluante, trop chère, trop individuelle, trop dangereuse, trop soumise aux embouteillages, semble sur le point de renverser une tendance plutôt alarmiste. On en parle moins désormais en termes de risque qu'en termes de désir. On le sait, la voiture, c'est bien plus qu'un objet, à la fois une mythologie et un marqueur social. C'est aussi le moyen de déplacement préféré des Français, il faut le rappeler, plus des 2/3 l'utilisent quotidiennement pour aller travailler. Alors, quelles conséquences ces révolutions auront-elles sur la mobilité des Français? Quel impact sur les enjeux majeurs en termes d'écologie, mais aussi d'économie ou d'industrie? La révolution technologique que sont l'électricité et la voiture autonome seront-elles la révolution des usages? Pour y répondre, l'historien des mobilités Mathieu Flonneau et l'économiste Bernard Julien, spécialiste de l'industrie automobile et des questions liées à l'usage de la consommation de la voiture, sont nos invités. Puis en dernière partie, on reste dans le thème en quelque sorte, puisqu'il sera question de pétrole suite à l'accord historique signé cette semaine par les membres de l'OPEP. On envisagera les conséquences prévisibles de la baisse de la production décidée à Alger. Et ce sera avec notre invitée Marie-Claude Aoun, directrice du Centre Énergie de l'Institut français de relations internationales, l'IFRI.
Dimanche et après, Raphaël Bourgois.
Ladies and gentlemen, please welcome the chairman and CEO of Renault, Mr. Carlos Ghosn.
Aujourd'hui, je vous annonce le doublement de l'autonomie de Zoé. Fidèle à sa culture d'innovation, Renault a été le premier à croire que l'avenir de l'automobile passe par l'électrique.
Nous sommes sur le périphérique intérieur, évidemment un peu embouteillé. C'est Pedro qui est au volant et qui vient de déclencher le système. Ça veut dire, Pedro, que dans le trafic, vous pouvez conduire en levant les mains sans problème.
Oui, sans utiliser les mains ni les pieds.
À l'avenir, le fait de conduire sera peut-être interdit parce que c'est trop dangereux. Et d'ailleurs, on pourrait se demander pourquoi on laisserait des gens conduire de véritables machines de la mort qui pèsent 2 tonnes.
Le covoiturage pourrait faire baisser de 10% le trafic en ville. De quoi donner un peu d'air aux piétons.
Voilà les 3 révolutions simultanées de l'automobile, la motorisation électrique, on entendait Carlos Ghosn, la voiture autonome, c'était Elon Musk, qu'on entendait le patron de Tesla, l'emblématique patron de Tesla, et puis le covoiturage, dans ce montage donc réalisé par Lionel Quentin sur la bande originale, vous l'aurez reconnu, de la fameuse série K2000. Mathieu Flonneau, bonsoir.
Bonsoir.
Je le disais tout à l'heure, vous êtes historien, maître de conférence en histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Vous avez dirigé notamment cette année Choc de mobilité, c'était chez Descartes et compagnie. Vous êtes aussi le co-auteur avec Jean-Pierre Orfeuille d'un rapport pour la Fondapol, Vive l'automobilisme, les conditions d'une mobilité conviviale. Il y a plein d'autres livres et un qui vient juste de paraître d'ailleurs, un beau livre avec des photos, L'automobile au temps des 30 glorieuses. En face de vous, Bernard Julien, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du GERPISA. Vous avez dirigé un TANG, c'est ce groupe d'études et de recherche permanent sur l'industrie et les salariés de l'automobile. Vous êtes économiste et vous aussi, vous avez un livre qui sort bientôt sur la Kwid. Alors la Kwid, c'est cette voiture, c'est ça, très low cost, lancée par Renault en Inde?
Oui, c'est une voiture qui est commercialisée depuis un an à peu près en Inde et qui est en vente à l'équivalent de 3 500 €.
On voit que les révolutions, elles ne sont pas forcément d'ordre technologique, elles peuvent aussi être d'autres propositions. On aura peut-être l'occasion d'en parler sur des voitures plus classiques. Mais tout d'abord, une première question, comment interprétez-vous l'un et l'autre cette enthousiasme inédit, en tout cas depuis plusieurs années, suscité par ce mondial de l'automobile que certains trouvaient déjà un peu anachronique il n'y a pas si longtemps que ça, Mathieu Flonneau?
Je pense que l'objet automobile continue de passionner, ça c'est une certitude, qu'il connaît une forme de fontaine de jouvence qui est assez heureuse au regard de la disqualification à certains égards arbitraire du produit, et en tout cas irréaliste au regard des pratiques que vous avez déjà rappelées tout à l'heure, c'est-à-dire que l'objet automobile continue d'être utilisé, d'être désiré également, et vous parliez du mondial, la fréquentation en témoigne. Il y a différents halls. Je vous parlerai d'un hall particulier tout à l'heure qui rappelle que le rêve automobile a toute sa consistance.
Oui, je le disais aussi, il y a toujours un désir d'automobile, ce qui n'empêche pas, qui fait que l'automobile se modifie, change face à révolution, notamment en ce qui concerne les enjeux énergétiques, enfin les enjeux de pollution, mais aussi des enjeux économiques, évidemment. Bernard Julien, ce succès du mondial de l'auto, c'est aussi le succès d'une filière qui renaît.
Alors, et effectivement, je pense que par rapport aux mondiaux précédents, il y a un clair regain d'activité industrielle et de recherche en France. Hein, et effectivement, on a deux groupes qui étaient assez mal en point encore il y a deux ans, qui ont repris des couleurs, qui en ont repris en Europe, mais aussi ailleurs dans le monde.
J'imagine que c'est PSA et Renault-Nissan dont vous parlez.
Voilà, donc même en termes de production, les choses vont moins mal. Hein, et puis effectivement, il y a un certain nombre de défis technologiques pour lesquels les Français sont en assez bonne posture. Hein, et c'est probablement une des raisons qui font que l'intérêt pour l'automobile au mondial est au moins autant de ce côté-là que du côté des produits pour lesquels, a priori, c'est un peu business as usual.
Vous diriez que d'un point de vue économique, d'un point de vue industriel, aujourd'hui, la filière automobile en France sort renforcée de ces années de marasme, parce qu'elle a réussi à sortir la tête de l'eau, ça reste encore quand même assez fragile.
Non, on ne peut pas dire ça. Hein. C'est-à-dire que si on prend les 10 années qui viennent de s'écouler, l'automobile a énormément perdu en France, hein, elle a énormément perdu en emploi. L'automobile française qui était exportatrice traditionnellement est depuis 8 ans maintenant importatrice nette, hein, hein, et par conséquent, même si il y a un léger regain depuis 2 ans, on est quand même bien loin d'avoir refait le retard qui a pu être pris, moins depuis la crise, du reste, hein, que depuis l'ouverture aux 10 nouveaux États membres, hein, qui a été un peu le coup de semonce pour la production automobile française.
Mathieu Flonneau, vous le disiez, la voiture fait rêver. En bonne place de ce rêve que font naître les voitures, il y a donc cette évolution technologique. On va en parler, on va essayer de serrer un petit peu ces révolutions. On parle beaucoup de l'électrique en ce moment, commençons par là. On entendait Carlos Ghosn, le patron de Renault, qui d'ailleurs a affiché une ambition de devenir le leader mondial, hein, sur Renault-Nissan qui va absorber Mitsubishi et qui veut devenir le leader mondial du secteur. Bref, Carlos Ghosn nous parlait de la Zoé, donc cette voiture électrique. Aujourd'hui, 70 modèles vont être présentés au mondial de l'automobile. L'électricité, c'est l'avenir de l'automobile ?
Bon, en tout cas, c'est une partie de son passé, déjà. Et là, l'historien, traditionnellement, le rappelle, a beau jeu de le faire, a beau jeu de doucher parfois certains enthousiasmes. Et évidemment, loin de remettre en cause la parole de Carlos Ghosn, quand même, il y a un peu de modestie à avoir, eu égard aux ambitions qui avaient été affichées dès 2008 mondial, qui était déjà celui de l'avènement, soi-disant, de la révolution électrique. Toujours est-il que le nom véritablement du modèle qui permet à Renault aujourd'hui et à l'Alliance de prétendre éventuellement devenir le premier constructeur mondial, c'est la Kwid, c'est l'ouvrage de Bernard Julien, c'est pas la Zoé. Mais ne négligeons pas ce qui a été annoncé, et donc il faut y faire justice, c'est au regard de la prolongation de l'autonomie que Carlos Ghosn s'est réjoui. Et de ce fait, il pallie là l'une des faiblesses majeures de l'automobilisme électrique qui, jusqu'à preuve du contraire, est perçu par les usagers comme un automobilisme dégradé.
Oui, mais c'est une perception. Je lisais une étude du MIT aux États-Unis disant que la voiture électrique, en l'état actuel de son développement, couvre plus de 80% finalement des besoins
Des chercheurs du MIT à Boston, je veux bien le croire. Oui, oui, absolument. Mais les besoins liés à l'automobile qui sont ruraux éventuellement et qui sont liés aux grandes distances, au départ en vacances, là, l'électrique, je suis désolé, est encore assez loin du compte. Et donc, elle n'entre pas encore véritablement significativement dans le tableau. Mais on peut y penser, effectivement, et je constate que cela passe par une augmentation de l'autonomie. C'est aussi bête que cela. Sauf que cette augmentation de l'autonomie, on la cherche depuis un siècle.
Elle est compliquée technologiquement, elle est coûteuse aussi économiquement. Coûteuse. Bernard Julien, la voiture électrique aujourd'hui, c'est à peine plus d'1% du marché, 1,16% en France, qui est déjà en deuxième position au niveau européen, derrière la Norvège sur ce secteur. Le tout électrique, c'est pas envisageable, en tout cas, l'état actuel des choses.
Alors, si vous voulez, ce que dit Mathieu Flonneau est assez vrai. Hein, c'est-à-dire qu'on sort d'une période où on a eu un très fort enthousiasme.
On a trop d'attentes. Hein,
entre les années 2008 et 2010 autour de l'électrique. Hein, et puis, on va revenir cette vague-là. Et fatalement, on se demande si la bulle est en train de regonfler et si elle ne va pas éclater comme la fois passée. Donc, la question qui me paraît opportun de poser aujourd'hui, c'est la question de savoir qu'est-ce qui pourrait faire qu'en 2016, ce rêve qu'on a nourri en vain, en 2010, on puisse l'embrasser de nouveau. Alors moi, je vois deux grandes différences, si vous voulez, aujourd'hui. C'est que, un, Renault-Nissan n'est plus seul, hein, et qu'on a effectivement, en même temps que Renault-Nissan, à la fois PSA en France, mais aussi Volkswagen, et un certain nombre d'autres qui s'y mettent. Et puis l'autre élément qui est probablement déterminant, c'est le Dieselgate, hein, et le fait que, face à ce Dieselgate, et aux engagements que les constructeurs ont pris en matière de réduction des émissions de CO2, ils sont pratiquement obligés aujourd'hui de passer par l'électrique pour faire face à leurs engagements.
Alors Dieselgate, faut peut-être rappeler pour nos auditeurs, d'ailleurs vous parliez de Volkswagen, c'est cette découverte aux États-Unis qu'il y avait une façon de truquer les résultats des moteurs diesel en termes d'émissions, et voilà, ça a été un vrai choc à la fois en termes de vente, d'achat de voitures, et un vrai choc aussi dans la stratégie de Volkswagen qui annonce maintenant, la Matthias Müller, le nouveau patron justement post-Dieselgate de Volkswagen, annonce que l'électrique devra représenter 25% des ventes de Volkswagen d'ici 2025, Mathieu Flonneau.
Oui, il le fait avec le zèle des convertis. Et véritablement, il y a une question d'image. Et Volkswagen a bien compris que son rachat moral, en quelque sorte, quasiment, est tenu par cette question désormais de l'électrification. Mais là où effectivement le tableau de l'électrification ne laisse plus Renault seul, c'est que BMW s'y met très sérieusement et d'autres constructeurs premium y sont très présents.
Vous diriez que c'est une approche, que l'approche elle est morale aujourd'hui entre le bon électrique et le mauvais pétrole, par exemple, Mathieu Flonneau ?
Ah bah, ça fait déjà une trentaine d'années que le débat sur la mobilité est complètement moralisé et que les résultats de ce débat moralisant se retrouvent dans les urnes, je veux dire, et ça c'est l'objet du livre que vous avez évoqué, au-delà de la note que vous avez évoquée, mais d'un livre qui fait que, ben, il y a effectivement, cette expression, je la reprends, une forme de réductio ad dieselum de l'automobiliste moyen qui est stigmatisé, oui.
Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, moi je pense que le Dieselgate, c'est aussi une crise de légitimité politique des constructeurs et des constructeurs allemands, à la fois chez eux en Allemagne et en Europe, hein, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, ils sont obligés de composer avec des pouvoirs publics qui vont les écouter d'une oreille un peu moins attentive, sans doute, quoi. Et effectivement, ça conduit à ce que les stratégies politiques soient assez sensiblement différentes. Et là, où on pensait passer encore en force sur le diesel, on sait qu'on ne pourra plus le faire, et du coup, on voit les constructeurs changer ce que j'appellerais leurs préférences politiques. Hein. Très récemment, on a eu à Berlin des annonces à la Parisienne, hein, disant que le diesel, ça allait être proscrit à échéance de 5 ans, et au lieu que de s'y opposer comme ça aurait été leur rôle habituel, eh bien, on a vu les constructeurs dire que, après tout, ça les arrangeait plutôt, parce qu'effectivement, ça va donner de la consistance au marché électrique qui ne décolle pas tout seul, hein, dont les ménages ne veulent pas spontanément, mais qui, contraints et forcés, ces ménages, bah, risquent d'y aller. Hein. Et ça, on l'a en Europe, mais on l'a aussi très clairement en Chine, et c'est ça, principalement, qui donne consistance à la prophétie des 20 ou 25%.
Mais j'ai pu lire qu'en Chine, où on tire au sort, hein, la possibilité d'avoir une voiture, on échappe au tirage au sort. Si on achète une voiture électrique, on peut l'acheter sans passer par ce système de tirage au sort, Bernard Julien. Alors ce que vous dites, c'est intéressant parce que ça montre l'importance malgré tout d'un acteur qu'on n'a pas encore tout à fait évoqué, c'est l'acteur politique, le décisionnaire, que ce soit dans les municipalités, dans les villes. Vous avez dit à la Parisienne, vous pensiez évidemment aux décisions d'Anne Hidalgo de fermer les quais rive droite, par exemple, d'interdire les voitures trop anciennes dans la ville. C'est une politique menée à Paris, mais qui peut être menée aussi dans d'autres municipalités. Aujourd'hui, il n'y aura pas de changement qualitatif dans l'automobile si il n'y a pas cet accompagnement, j'allais dire, des pouvoirs publics. Vous pensez que ça peut se faire autrement ? Bernard Julien.
Enfin, d'évidence, hein, l'industrie automobile, c'est pas l'historien qui me contredira, hein, elle est politiquement constituée. Hein, et la structure d'un marché est très dépendante de la fiscalité sur les automobiles, de la fiscalité sur l'essence et le système de mobilité, les systèmes de motorisation, ils ne sont pas décrétés par les constructeurs seuls. Hein, il faut encore qu'ils s'inscrivent dans un système de mobilité qui leur permette de trouver une place. Quoi. C'est ça qui est clairement en renégociation aujourd'hui, plus sans doute en 2016 que ce n'avait été le cas en 2010. Mais attention toutefois, il y a une crise des finances publiques dont doivent tenir compte aussi les acteurs automobiles.
Puis il peut aussi y avoir une bulle. Vous parliez de bulle de l'électrique tout à l'heure. On sait que le diesel a été financé, très financé, qu'aujourd'hui, on s'en mord un petit peu les doigts, Mathieu Flonneau, sur ce rôle des politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on a une proposition véritablement en termes de mobilité, en termes de propositions sur la voiture qui vous paraissent intéressantes?
Je pense quand même qu'il manque finalement une ligne stratégique pour tout l'écosystème routier et lié aux mobilités. Et je mets l'automobile parmi tout le bouquet mobilitaire.
À cause de ce déni moral dont vous nous parliez tout à l'heure?
Oui, mais je pense que ce déni moral, si vous voulez, c'est une question qui redevient lue positivement. J'en prends note, les invitations à France Culture à en parler. Au moment où la crise était véritablement morale, on en parlait moins. Donc cette question-là, je vous en remercie, ça permet de reparler positivement de l'objet automobile qui, de fait, et là c'était quand même un grand mépris pour toute la filière, était bien conscient de sa responsabilité sociale de l'entreprise, la fameuse RSE, eh bien les entreprises automobiles en ont cultivé réellement, peut-être plus que d'autres entreprises, la réalité. Autrement dit, il y a quand même une prise de conscience qui est partagée. C'est à coup de procès aussi, oui, il faut bien le dire. Les constructeurs le font sous la pression. Une pression qui est une pression également d'associations, qui est une pression de lobby, d'autres lobbies qui existent. C'est un rapport de force, ça a été dit. On le retrouve à Paris. Je dirais que là, il y a aussi un grand récit simplificateur sur la grande ligne de l'urbanisme parisien, qui est plutôt la pluralité des cultures de transport. C'est un autre sujet, mais enfin, c'est en même temps pleinement le sujet. Il y aurait beaucoup à dire sur l'exclusion un peu arbitraire de l'automobile des quais de Seine.
C'est pas le sujet aujourd'hui, vous avez raison de le dire, Mathieu Flonneau. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il faudrait laisser aussi, vous parliez des lobbies qui s'affrontent? C'est vrai que souvent, on a tendance à penser que c'est quand même les lobbies de l'automobile qui ont gain de cause, puisque quand l'automobile va, tout va, a-t-on coutume de dire. Est-ce que vous avez l'impression qu'il faudrait quand même donner un petit peu plus, laisser faire un petit peu plus l'industrie? J'ai lisais une interview de Carlos Tavares, le patron de PSA, qui regrettait justement à la fois un manque de volonté politique et en même temps qu'on ne les laisse pas un petit peu plus de liberté, on va dire, dans la définition des enjeux de la mobilité, des enjeux de l'avenir de la voiture.
Disons que la sincérité d'un acteur industriel est toujours à questionner. Mais l'automobile était parvenue à un tel degré de négativité, si j'ose dire, et vous l'avez dit, le mondial finalement permet de parler plus positivement cette année de l'automobile, que les constructeurs se sont posés sincèrement la question de leur sincérité. Et ils ont progressé.
France Culture, dimanche et après. Raphaël Bourgois.
Dimanche et après sur les révolutions de l'automobile avec l'historien Mathieu Flonneau et l'économiste Bernard Julien. Alors on a parlé de la voiture électrique, on a parlé du rôle des pouvoirs publics, rien de très nouveau à vrai dire. La vraie révolution, c'est quand même la voiture autonome, celle qui nous plonge directement dans la science-fiction, pouvoir s'asseoir dans une voiture, pas de chauffeur et hop c'est parti, on va au travail, en vacances, quelque part, je ne sais où vous voulez, puisque la voiture c'est quand même un petit peu aussi la liberté. Alors de quoi on parle exactement Bernard Julien, Mathieu Flonneau, quand on parle de ces voitures autonomes, parce que c'est quand même assez compliqué. Il n'y a pas que cette voiture sans chauffeur, il y a tout un tas de degrés d'autonomie, Mathieu Flonneau. D'abord, pourquoi est-ce que ça fait autant rêver? Est-ce que ça a toujours été, on va dire, dans l'esprit des gens qui travaillent dans l'automobile? Et voilà, de quoi on parle exactement aujourd'hui?
Alors, vous pointez une vraie question, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est un vieux rêve, également, comme la voiture électrique. Dans le fameux Hall 8 de l'exposition actuellement, l'automobile fait son cinéma au Mondial, que j'invite tout le monde à venir voir. Il y a beaucoup de monde qui y
vient.
Donc
vous êtes commissaire.
Voilà, mais parce qu'il y a déjà des voitures autonomes dans ce Hall 8. Il y a Choupette, la voiture du cinéma de Disney. Il y a
la Coccinelle.
Il y a K2000. Il y a la voiture de la série télévisée. Il y a la voiture de Retour vers le futur, la DeLorean. Et c'est quelque chose qui traverse l'imaginaire anthropologique lié à l'automobile.
Mais et alors on en est là aujourd'hui,
on en est à un moment qui est critique parce que à certains égards et dans certaines conditions, dans certains corridors, on pourrait le faire. Toutefois, l'automobilisme est un universalisme. Et l'automobilisme couvre tous les continents, toutes les routes, tous les chemins. Or, une voiture autonome a besoin de repères, a besoin d'un écosystème constitué très cher, très coûteux, très préparé, très pensé. La voiture autonome ne roulera pas au fin fond de campagne française aujourd'hui. La voiture autonome ne roulera pas, a fortiori, dans des zones où elle n'est pas attendue. Donc il y a des données là qui peuvent jouer contre le mythe même de l'automobile. Et il faut être très prudent. Et je trouve que Elon Musk tout à l'heure était très imprudent. Lui qui cherche quand même à vendre des très belles voitures très chères, en disant qu'un jour, leur possesseur pourrait se passer de volant. Je pense que là, Porsche a été beaucoup plus raisonnable en disant, nous, on va garder un volant. On va garder quelque chose qui soit susceptible de créer du plaisir de conduire.
Bernard Julien ?
Oui, alors l'automobile est très dépendante des droits qui l'entourent. Hein. Aujourd'hui, effectivement, l'autonomie telle qu'elle est fantasmée, hein, y compris par les constructeurs ou par les commentateurs, c'est quelque chose qui n'est pas compatible avec les systèmes de droit dans lesquels l'automobile doit s'insérer. Hein, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une autonomisation progressive d'un certain nombre de fonctions des véhicules avec obligation de garder quelqu'un derrière le volant pour exercer la vigilance nécessaire et finalement être en dernier ressort responsable d'eux.
Oui, quoi. Parce que certains constructeurs, par exemple, proposent qu'il y ait un pilote automatique, en quelque sorte, qui prenne le contrôle quand on est dans des embouteillages, mais en dessous de 30 km/h.
C'est déjà le cas. Hein.
Oui, voilà, ça marche. Assistants à la conduite, dépassement de ligne, évidemment, freinage.
Donc ça veut dire que tant qu'on est dans un système qui finalement radicalise ou prolonge ce qu'on appelle les aides à la conduite aujourd'hui, c'est complètement envisageable et c'est déjà une réalité assez largement. Et c'est déjà, sinon une révolution, du moins une mutation importante, parce que ça marginalise le conducteur dans le marketing automobile. Hein. Ça veut dire qu'il faut penser le marketing des voitures, non plus en fonction de la conduite, mais en fonction de ce qu'on va pouvoir faire d'autre que conduire. Hein. Et déjà, si les constructeurs savent trouver de la valeur autour de cela, ils auront réussi une partie du chemin. Hein. Par contre, qu'on puisse s'asseoir sur le siège passager ou sur la banquette arrière, c'est infiniment improbable.
Film, ouais.
Or, des corridors très étroits qui ressemblent à des navettes d'aéroport ou à la ligne 14 du métro pour les
du métro parisien, bien sûr. Alors, en effet, Mathieu Flonneau, on a peut-être ce hiatus entre ce qu'on peut rêver et la réalité de ce qu'on peut nous proposer. Mais après tout, c'est un peu le propre aussi de ces évolutions technologiques de la voiture. Vous parliez d'expérience tout à l'heure. Il y a en effet l'expérience de la conduite, le plaisir de conduire. Il y a une étude récemment de l'Observatoire CTM qui dit que 80% des Français assurent qu'ils adorent encore conduire. Manifestement, ils ne prennent pas forcément les bouchons du soir quand ils rentrent du travail. Mais voilà, est-ce qu'aujourd'hui, on a toujours cette même expérience de plaisir de conduire ? Je veux dire, les voitures, elles conduisent toutes seules, on vient de le dire. On est dans les bouchons. Enfin, il y a quand même quelque chose qui a évolué.
Tout est très, très relatif, évidemment. La situation que vous venez de décrire est typiquement la situation dans laquelle la conduite autonome pourrait éventuellement avoir une pertinence. Ensuite, les enquêtes que vous venez de cité témoigne bien du fait qu'il y a une grande méfiance eu égard à la conduite autonome, parce que qui dit conduite autonome dit traçabilité absolue de l'individu. Dit ensuite, et là je pense que le rêve vraiment c'est peut-être un cauchemar et c'est pas forcément quelque chose qui est très excitant, c'est de transformer la machine sensationnelle, c'est-à-dire authentiquement à sensation qu'est l'automobile, en un objet qui sert simplement à se déplacer, dans lequel éventuellement on peut avoir le mal de mer, puisque désormais tout le monde sera à la même enseigne et on ne prévoira pas la réaction nécessairement si on est en train de regarder un film. Je pense qu'il y a des sensations franchement qui font plus rêver que cela.
Oui, c'est sûr que le mal de mer, ça, je suis d'accord avec vous. Est-ce que la France est en bonne place, là aussi, sur cette question de la voiture autonome ? On a vu cet accord signé par Renault-Nissan avec Microsoft cette semaine. Où est-ce qu'on se situe sur cette question ? Est-ce qu'on est aussi en pointe qu'avec l'électrique, Bernard Julien ?
Alors, il y a une mobilisation assez forte hein, de l'écosystème français via la plateforme de la filière automobile autour de ces enjeux-là, comme il y en a une autour du véhicule de litre au 100 et de l'allègement. Hein, par conséquent, si les choses ont un peu tardé, il y a aujourd'hui une vraie concertation qui concerne d'ailleurs non seulement les constructeurs de véhicules particuliers, mais aussi tout le pôle qui est majeur dans cette affaire-là du poids lourd et du bus. Hein, ça permet de réunir
dire, autour d'une même table des gens qui font de l'informatique ou de la robotique, des constructeurs et des gens qui gèrent de la cartographie, par exemple. Hein. Par conséquent, il y a effectivement, sur ce dossier-là, une vraie politique, une vraie mobilisation qui est assez bien coordonnée sous l'égide de l'État entre les différents acteurs. Il manque peut-être, les constructeurs s'en plaignent volontiers, un certain nombre de terrains d'expérimentation, hein, comme il peut y en avoir aux États-Unis. Ça fait partie des enjeux qui
sont actuellement... Oui, on dit qu'en Europe, c'est peut-être un peu plus bloqué, en effet, que sur d'autres continents, dans d'autres pays. Alors, dernier, j'allais dire, pied à ce triptyque qu'est la révolution automobile, c'est le covoiturage, l'autopartage, ce qu'on pourrait dire le passage de la possession au partage de la voiture. Mathieu Flonneau, qui met évidemment un coin dans cette idée, voilà, dans ce rêve de la voiture, tel que vous avez pu le décrire dans l'histoire. Je parlais de Carlos Tavares tout à l'heure, le patron de PSA. Là aussi, il a fait des annonces dans l'achat, par exemple, de start-up qui travaillent là-dessus. C'est-à-dire qu'un constructeur comme PSA pourra être amené à n'être plus seulement justement un constructeur, un distributeur de voitures, mais peut-être aussi fournisseur d'une sorte de service. C'est une évolution possible, ça ?
Absolument. Les constructeurs sont sortis d'une logique Fordiste qui était simplement de production d'un objet à consommer. Désormais, ils réfléchissent avec
après,
les consommateurs.
Temps, oui, en effet.
Oui, il était temps, mais bon, de fait, ils sont partie prenante de ces réflexions. Je dirais que les constructeurs automobiles le sont, les constructeurs d'autoroutes le sont. On voit des emplacements désormais réservés pour le covoiturage, des aires sur autoroute. Il y a effectivement un mouvement de société. Alors, on peut aussi penser que ce mouvement de société risque de plafonner à certains égards, parce que on le découvre actuellement et le marché croît, certes, mais il y aura toujours des besoins d'automobilité tels que vous les décrivez. Ce qui retarde et ce qui encourage finalement ce marché, c'est aussi le retard à l'achat désormais du premier véhicule. C'est au-delà de 50 ans un particulier qui achète une voiture. Donc là, on conçoit bien que les constructeurs se posent des questions pour investir ces marchés qui ont une consistance, une réalité et qui taille surtout des croupières, si j'ose l'expression, aux entreprises de transport public en commun. Et donc là, c'est aussi un retour à la voiture.
Bernard Julien, sur ces constructeurs automobiles qui deviendraient des fournisseurs de services en quelque sorte.
Oui, alors là encore, hein, c'est au fond un assez vieux fantasme. Hein, quand on travaillait sur l'industrie automobile dans les années 90, on avait déjà très fortement ce discours-là, chez les Américains en particulier, qui disaient il faut rentrer dans l'ère des services, les usines, c'est pas bien, c'est pas joli, il y a des ouvriers dedans, etc. Et puis on va fournir de la mobilité et ça va être très bien comme ça. Alors je pense que ça correspond à une propension des constructeurs à inventer la vie qui va avec leur intérêt, hein, et à faire comme si ils pouvaient gérer des mobilités comme ils gèrent des process industriels, alors même que les systèmes de mobilité automobile sont aujourd'hui très 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 partiellement contrôlés par les constructeurs. Hein, la plupart des automobilistes aujourd'hui ne voient jamais un constructeur dans leur vie parce qu'ils achètent des voitures d'occasion, parce qu'ils les font réparer hors des réseaux de marques, hein, et parce qu'au fond, hein, ils vivent leur vie d'automobiliste sans les constructeurs. Mais je pense que les mobilités en iront de même très probablement, hélas pour les constructeurs et leur velléité d'annexer tout ça.
Bernard Julien, vous parlez de rêve de constructeur, c'est aussi répondre à une certaine forme de réalité, tout comme l'électrique, la voiture électrique répond aux enjeux écologiques. Là, le covoiturage correspond à une évolution de la société qui passe, comme je le disais, peut-être de la possession au partage, la fameuse économie du partage dont on nous parle beaucoup. Vous-même, vous proposez, je crois, une fiscalité intelligente qui transférerait les coûts de l'usage à la possession. Voilà, c'est-à-dire que dire que posséder un véhicule, eh ben finalement, c'est moins bon collectif que le fait de le partager quand même.
Oui, indéniablement. Enfin, il se trouve que j'ai fait pour les ministères de l'Industrie et du Développement Durable un rapport à ce sujet-là. Indéniablement, il y a un potentiel d'amélioration non seulement écologique mais aussi industrielle autour de ces voies-là. Hein, simplement, aujourd'hui, c'est plutôt mal parti. Hein, ça se développe très peu, très mal et dans des zones qui en ont le moins besoin. Là où on a besoin de solvabiliser les besoins de mobilité, c'est dans le monde peu dense, dans le monde rural, dans le monde périurbain. Et là, ces services-là, ben, on a toutes les peines du monde à les développer. Hein, et par conséquent, si on doit s'orienter vers cela, il va falloir que ce soit sur des bases assez différentes que sur les quelques start-up qui font mine de s'y intéresser aujourd'hui.
Alors justement, pour terminer, on a vu pendant tout au long de cette émission que se pose une question, c'est évidemment celle d'une sorte de fracture des mobilités en France. Toutes les solutions dont on a parlé, elles semblent plus adaptés à des endroits qui finalement en ont le moins besoin, c'est-à-dire les centres urbains où la mobilité est déjà bien organisée, que ce soit en termes de transport public ou autre solution. Est-ce que aujourd'hui on peut quand même imaginer une façon, bah oui, de réduire ce qu'on pourrait appeler une sorte de fracture des mobilités? Vous en pensez quoi? Quelles seraient les solutions, Mathieu Flonneau?
J'ai absolument pas de solution, mais je constate avec dépit qu'il y a...
En tout cas, elles sont pas là, les solutions. Ces révolutions ne sont pas d'ordre à changer
ça. Si, mais il y a un rôle du capitalisme urbain qui est complexe, qui... des systèmes comme Autolib et Vélib qui ont été... de façon transparente évoqué par Bernard Julien, qui se développe dans des centres-villes déjà saturés et qui font office d'effet d'aubaine finalement pour des Parisiens qui n'en ont pas nécessairement besoin. Là, il y a des cumuls d'opportunités qu'il vous faudrait mieux transférer ailleurs.
Bernard Julien, très rapidement sur cette question, est-ce que les trois révolutions qu'on a évoquées sont de nature à changer la donne un petit peu
Il me paraît effectivement essentiel que les constructeurs, mais surtout les politiques publiques, réorientent les efforts technologiques et les efforts de politiques automobiles vers les endroits où il n'y a pas d'alternative. C'est ça, au fond, qui est le grand bug qui est à corriger aujourd'hui. Plus on a besoin d'automobiles, moins bien on est servi par les constructeurs et par les promoteurs des solutions nouvelles de mobilité.
Merci beaucoup Mathieu Flonneau, Bernard Julien. On pourra retrouver sur la page de Dimanche et Après toutes les références bibliographiques pour approfondir évidemment les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui.
Y a un pipeline chez mon voisin, c'est la folie qui salit le pétrole. Tu marches au fioul, à l'ordinaire, au kérosène ou au super, de toute façon c'est toujours du pétrole. Mais la benzine ou la gasoline, le plastique ou la paraffine, ne cherche pas, c'est toujours du pétrole. Pas de l'or blanc, c'est de l'or noir, mais ça fait des pétrodollars. Y'a pas que des bidons dans le pétrole. Pareil qu'il y en a qui ont des idées, je voudrais voir leur bagnole rouler. S'ils mettent autre chose dedans que du pétrole.
Johnny Hallyday chante le pétrole, on l'aura compris. On n'est pas prêt de sortir de notre dépendance à l'or noir. C'est pourquoi, dans la continuité de la première partie de l'émission, il a semblé intéressant de nous pencher sur l'accord signé cette semaine par l'OPEP à Alger pour diminuer sa production de 2%. Accord immédiatement qualifié d'historique. Voilà 8 ans que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole n'était pas parvenue à s'entendre. Alors, acte de désespoir ou bien retour de l'OPEP au centre du jeu énergétique international, et ben, on va poser la question à notre invité, Marie-Claire Aoun. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice du Centre Énergie de l'IFRI, l'Institut français de relations internationales. Tout le monde s'est dit surpris par cet accord donc cette semaine à Alger de l'OPEP. Vous avez été surprise, vous ?
Alors, je dirais que cette décision était à la fois attendue et surprenante. Dans un premier temps, attendue. Pourquoi ? Parce que ça fait 2 ans qu'on attend que l'OPEP arrive à trouver un accord pour agir sur le marché et réduire la production. Et ça fait 2 ans que toutes les réunions n'aboutissent pas à un accord. La difficulté aujourd'hui, cette décision, elle est arrivée un peu dans l'urgence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pays de l'OPEP, les économies de ces pays-là sont complètement exsangues. Le Venezuela, le Nigeria, l'Algérie, une grogne sociale très forte, de plus en plus forte. Même les pays du Golfe subissent de plein fouet cette baisse des cours du brut, des déficits budgétaires très très forts qui sont de plus en plus importants, notamment l'Arabie Saoudite. Donc, je dirais que d'abord, c'était une urgence, en fait, pour l'OPEP d'arriver à un accord. Ensuite, la deuxième chose, c'est que la raison de cette lenteur dans la décision et de ces 2 ans de décalage avant d'arriver à une décision, c'est que l'OPEP, et en réalité l'Arabie Saoudite qui portait la décision de l'OPEP, espérait, en fait, à la fois réduire la production des unités les plus coûteuses, donc le pétrole de schiste américain, en laissant filer les cours et en laissant les prix bas, elle espérait que la production américaine ne résisterait pas. Et puis la deuxième chose, elle espérait aussi un choc via la demande et donc que la demande de nouveau augmenterait. Sauf que dans les faits, ni la production américaine n'a réellement baissé de manière significative avec les prix bas du pétrole, et puis la demande n'est toujours pas au rendez-vous comme ce qui était espéré. Donc, c'était une urgence d'arriver à un accord aujourd'hui.
Oui, donc ce qui a décidé Riyad, qui, comme vous l'avez dit, domine véritablement l'OPEP aujourd'hui, c'est aussi l'échec de cette stratégie, vous l'avez évoqué, cette stratégie de laisser filer les prix pour, quelque sorte, mécaniquement rendre le pétrole de schiste, le gaz de schiste, moins attractif et donc pouvoir reprendre un petit peu la main. On estime que ça aurait coûté à l'Arabie Saoudite 150 milliards de dollars et aujourd'hui, elle présente un déficit de son budget, de l'ordre de 13,5% de son PIB, sont les chiffres du FMI, avec à la clé un certain nombre de troubles sociaux. On voit que là, encore, l'énergie, le pétrole, allie tout un tas de considérations qui sont d'ordre politique, d'ordre géopolitique, d'ordre économique, d'ordre sociaux. Qu'est-ce qui se joue là, dans cet accord aujourd'hui, pour que finalement, on trouve, outre le fait d'être au pied du mur, mais il y a d'autres facteurs quand même qui font qu'on trouve cet accord. Je sais pas, par exemple, le fait que l'Iran revienne dans le jeu, enfin voilà, il y a d'autres choses qui se jouent.
Alors effectivement, la difficulté de trouver un accord, c'est que l'Arabie Saoudite portait cette décision de ne pas vouloir intervenir, et puis de l'autre côté, il y a les pays comme le Venezuela, comme l'Algérie, comme l'Irak, qui poussaient pour une action de l'OPEP par les prix. Mais en fait, l'Arabie Saoudite a décidé, depuis novembre 2014, de ne pas porter le fardeau de la réduction, de la baisse de la production toute seule. Elle voulait un effort collectif, de la part de tous les pays membres de l'OPEP, et donc évidemment en premier lieu l'Iran. Or l'Iran, de son côté, annoncé depuis 2014, et encore plus avec la levée des sanctions réelles en 2015, vouloir atteindre son niveau de production pré-sanctions, qui était de l'ordre de 4 millions de barils jour. Et donc entre-temps, la production iranienne a effectivement augmenté. Elle est aujourd'hui aux alentours de 3,6-3,8 millions de barils jour. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui on bascule ? En fait, de nombreux experts pensent que le niveau de 4 millions de barils jour va être difficile à atteindre et qu'en réalité, l'Iran est aujourd'hui...
Donc c'est la rencontre de l'incapacité technique de l'Iran et du besoin de l'Arabie
absolument,
saoudite.
Absolument. L'Iran arrive à ses niveaux maximaux, disons, de production aujourd'hui. Donc elle ne pourra plus augmenter. Et puis l'Arabie saoudite qui se dit, là, il va falloir agir. On ne peut plus continuer comme ça. Et donc, il y a eu ce terrain d'entente qui a été trouvé.
Donc contrairement à ce qu'on a pu lire, ce n'est pas forcément un recul de l'Arabie saoudite, c'est pas un échec de l'Arabie saoudite, cet accord ?
Moi, je ne lirais pas ça comme un échec de l'Arabie saoudite. La décision, la suite de... Parce qu'il y a eu un accord il y a quelques jours à Alger, effectivement. Là où c'était surprenant, vous parliez de surprise tout à l'heure, c'est ce chiffre qui a été annoncé de 32,5 millions de barils jour. C'est-à-dire que l'OPEP s'engage en quelque sorte à réellement réduire d'une certaine...
Oui, c'est chiffré, ouais, 2%.
Donc c'est chiffré, c'est pas juste un accord pour
rassurer... Or, par le passé, c'est vrai que les annonces de l'OPEP en la matière n'ont pas toujours été suivies des faits.
Absolument. C'est pour ça qu'on pourra vraiment juger de cet accord le 30 novembre prochain à Vienne, là où en fait il va y avoir mise en œuvre, là où chaque pays va accepter ou pas de réduire sa production. Et donc effectivement, tout peut basculer à nouveau. L'Iran peut de nouveau faire marche arrière et renoncer à l'effort. Il y a aussi d'autres pays dont on parle peu, mais il y a le cas de la Libye qui a des niveaux de production très très bas compte tenu de la situation que l'on connaît. Il y a le Nigeria qui a de gros problèmes de sécurité dans ses installations pétrolières. Et il est aussi à des niveaux très bas. Il y a le cas de l'Irak. Donc comment est-ce que ces pays-là vont participer à cet effort collectif ? Est-ce qu'ils vont accepter de rester à ces niveaux très bas ou est-ce qu'on va les autoriser à augmenter ? Donc tout ça va se jouer en fait le 30 novembre lors de la réunion à Vienne.
Oui, voilà pour les tenants et les aboutissants de cet accord qui en effet devra être précisé sur la charge que chacun porte dans la réduction de la production des barils de pétrole. Évidemment, donc vous venez de le dire à Vienne le 30 novembre. Mais est-ce que les résultats escomptés seront là ? C'est aussi une autre question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est une décision de nature à soutenir durablement les prix du pétrole ?
Alors, ce qu'on a vu, c'est que la décision de l'OPEP il y a quelques jours a rassuré en quelque sorte les investisseurs et a redonné confiance, et on a vu une légère hausse des prix du brut de quelques pourcentages. Donc pour l'OPEP, c'est déjà un signal, elle donne le signal au marché qu'elle est toujours là, qu'elle est toujours capable de trouver un consensus et d'agir. Maintenant, effectivement, on va attendre le 30 novembre pour voir si cet accord, comme vous le disiez, va être réellement précisé. Et effectivement, s'il est précisé et si l'OPEP reste dans cette fourchette annoncée de 32,5 millions de barils jour, il y a effectivement un espoir pour que ça ait un impact sur le marché. Maintenant, donc, s'ils arrivent à trouver un accord entre eux. Deuxième obstacle qu'il faut absolument mentionner, c'est la Russie. La Russie est aujourd'hui, donc ce n'est pas un pays membre de l'OPEP, c'est un pays qui produit 11 millions de barils jour. Aujourd'hui, c'est des niveaux records qu'on n'a jamais vus depuis les années 80. Et donc, il va falloir aussi négocier avec les Russes. Il va falloir aussi que le gouvernement russe convainque ses compagnies de baisser sa production, parce que effectivement, l'OPEP toute seule ne pourra pas réellement avoir un impact sur le marché.
Oui, Marie-Claire Hounes, qui montre qu'aujourd'hui, l'OPEP est beaucoup moins centrale qu'il ne pouvait l'être, par exemple, à l'époque du choc pétrolier en 73. Quelques chiffres encore. Aujourd'hui, c'est 40% de la production mondiale contre 55% à l'époque. Vous avez rappelé le rôle de la Russie aujourd'hui et évidemment le rôle des États-Unis avec les gaz de schiste, et même de manière plus traditionnelle, j'ai pu lire que les États-Unis avaient rouvert une centaine de plateformes pétrolières cet été. Donc on voit bien que les choses de ce côté-là ne sont pas figées. Malgré tout, ce qui montre la complexité du secteur sur la possibilité d'anticiper une hausse, une baisse d'un baril qui aujourd'hui est un petit peu en dessous de 50 dollars. On se rappelle des sommes faramineuses au-dessus de 130-140 dollars il y a encore quelques années. C'est cette prévision de Goldman Sachs qui dit que si la baisse de production va avoir un effet bénéfique à court terme, ce sera contre-productif à moyen terme parce qu'il y aura une vaste reprise des forages dans le monde. Donc on voit que là aussi, il n'y a rien de mécanique en fait en la matière.
Absolument. Disons qu'aujourd'hui, en fait, ce qui a changé par rapport aux précédents épisodes de baisse des cours, c'est qu'on fait face à une nouvelle technologie qui est la technologie des pétroles de schiste aux États-Unis. C'est ça qui a fait qu'on s'est retrouvé avec un excédent très important de production. C'est une nouvelle technologie qui, la production américaine a démontré une résilience complètement inattendue. On pensait tous qu'avec des prix du baril autour de 70 dollars, la production américaine s'écroulerait parce qu'elle ne serait pas rentable. Et en réalité, elle a bien résisté. Elle a commencé seulement à fléchir un an après le début de la baisse des prix du pétrole, donc aux alentours de juillet 2015. Et puis finalement, la baisse a été de l'ordre de 700-800 000 barils jour, donc beaucoup moins que ce qui était prévu. Pourquoi ? Parce qu'il y a des améliorations constantes de productivité qui font baisser les coûts de production. Et cette production va continuer à surprendre. Et effectivement, ce que vous disiez, il est fort possible que l'OPEP réduise sa production et qu'en face, ça permette de nouveau à la production américaine d'augmenter. Et donc, l'effort de l'OPEP aura été sans doute inutile. Ce qui ferait changer les choses, c'est la demande. Et si effectivement la demande redécolle, s'il y a une reprise de la croissance économique asiatique, par exemple, là, ça pourrait avoir un impact réel sur les prix.
Oui, parce qu'évidemment, le contexte économique plutôt atone, hein, d'un point de vue mondial, la baisse des pays émergents, enfin, de la croissance des pays émergents a eu un impact très sérieux sur cette question. Est-ce que malgré tout, c'est pas une bonne nouvelle de voir l'OPEP revenir un peu dans une gestion un peu active de cette question, de ces questions énergétiques du pétrole, puisque l'OPEP depuis 2008, vous l'avez dit, ne trouvait pas d'accord, donc ils étaient un peu sortis du jeu en quelque sorte. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une bonne nouvelle de les voir revenir ?
Alors ça dépend pour qui. Ça dépend de quel point de vue on se place. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le consommateur qui, lui, voudrait voir un prix du pétrole relativement faible ? C'est peut-être pas une bonne nouvelle. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les économies des pays de l'OPEP ? À première vue, on pourrait dire oui, parce que ça va permettre effectivement d'augmenter les prix du pétrole. Je rappelle qu'une augmentation de 1 dollar, vraiment en gros, de 1 dollar du prix du baril, c'est à peu près 10 milliards de dollars de recettes pour les pays de l'OPEP. Donc c'est quand même important. Ces économies sont complètement dépendantes de la rente pétrolière. Il faut rappeler qu'elles n'ont pas réussi à se diversifier, toutes les économies des pays de l'OPEP. Donc effectivement, c'est une bonne nouvelle de ce point de vue-là, parce que ça va permettre de nouveau d'alimenter leur budget et de réduire la grogne sociale. Sur le long terme, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je dirais que non, parce que l'OPEP, on voit bien qu'il y a des réformes qui commencent à être annoncées dans certains pays. Et là, c'est une occasion de se diversifier pour ces pays-là. Et malheureusement, si le prix du pétrole repart à la hausse, il est possible que ces réformes elles soient mises de côté et qu'elles soient ajournées à une autre date.
Marie-Claire Aoun, vous l'avez dit, on attend le 30 novembre l'accord à Vienne pour voir un petit peu, voilà, la ratification de l'accord à Vienne, pour voir un peu comment les modalités d'application vont se mettre en œuvre. Merci beaucoup d'avoir été aujourd'hui au micro de Dimanche et Après pour nous expliquer un peu en 10 minutes la complexité de ces enjeux. Il en faut beaucoup plus et donc je renvoie vers le site de l'IFRI et puis vers vos articles divers. On mettra évidemment les références sur le site de Dimanche et Après. Merci à Lionel Cantin qui était à la réalisation, à Élise Leu à la technique. Antoine Dulster m'a évidemment aidé à préparer cette émission. Il sera question d'automobile encore cette semaine sur France Culture dès demain dans la matinale de Guillaume Herner à 7h15 et toute la semaine chez Marie Richeux dans son émission Les Nouvelles Vagues. C'est à 14h évidemment. Vous pouvez réécouter et podcaster Dimanche et Après sur franceculture.fr. Très bonne semaine à tous, au volant, au travail ou à la maison, mais surtout à l'écoute de France Culture.